Bonjour Patrick Martin.
Bonjour.
Le MEDEF fait sa rentrée aujourd'hui avec la nouvelle formule de son université d'été. Nouveau lieu, l'hippodrome de Longchamp, nouveau format et nouveau nom, il faut dire désormais, la rencontre des entrepreneurs de France. Rassurez-nous, on verra toujours défiler des patrons et des ministres.
Bien sûr, d'abord on aura une affluence record qui tient peut-être au nouveau lieu, qui tient je crois surtout à la programmation. On a 12 ministres qui vont intervenir, on a la présidente de la République géorgienne. Et puis on a par ailleurs des intervenants de profils délibérément décalés. Je pense par exemple à une militante humanitaire rwandaise qui a sauvé 40 000 orphelins de guerre, etc. etc. Ce qu'on veut c'est
une gilet jaune, Jacqueline Gourault.
Oui, absolument, qui était à l'origine du mouvement mais qui n'a jamais été violente et qui a dénoncé les violences. C'était important dans l'invitation que nous lui avons formulée. Voilà, notre idée, c'est de s'ouvrir l'esprit,
c'est d'être plus en phase avec les préoccupations sociales du pays.
Sociales, sociétales, environnementales. Les entreprises ont un rôle important à jouer là-dedans. Elles considèrent avoir l'essentiel des solutions. Et puis on veut bien témoigner que s'il reste sur ses fondamentaux, parce qu'on a des enjeux de fiscalité, de charges, de réglementation qui demeurent malheureusement, mais les entreprises se tournent vers l'avenir et à nouveau sont bien conscientes qu'elles peuvent être la réponse à beaucoup des défis auxquels nous sommes confrontés.
Et vous osez même le titre pour cette rencontre, Nos Futurs. Ça veut dire que le MEDEF est devenu punk durant l'été.
Alors Nos Futurs sans S, c'est effectivement une référence au morceau des Sex Pistols, mais c'est Nos Futurs au pluriel, puisqu'on va à nouveau s'interroger sur nos futurs à tous, le futur des entreprises, le futur de la population, le futur de la planète.
Vous voulez régénérer cet événement de rentrée? L'ancienne formule n'était plus bonne?
L'ancienne formule avait vieilli, mais c'est normal, hein, au bout de 20 ans. Et ça traduit aussi la nouvelle orientation que Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF, aux côtés duquel je travaille, veut donner à notre mouvement, c'est-à-dire plus anticipateur, plus visionnaire, pourquoi ne pas le dire, et puis plus inclus dans la société.
Et vous allez parler climat ou encore inégalité, hein, c'est bien au menu de vos rencontres. Ça veut dire que vous voulez convertir les patrons français à l'écologie et aux augmentations de salaire?
Alors, les patrons français le sont essentiellement. D'abord sur les augmentations de salaire, quoi qu'on en pense, quoi que vous en pensiez peut-être, il y a des augmentations de salaire. Et puis par ailleurs, il y a des...
Il y en a en France, mais qui sont, disent les baromètres internationaux, plutôt plus faibles que la moyenne mondiale.
Oui, mais sur des bases qui sont plus élevées que la moyenne mondiale, et qui de toute façon, on l'observe dorénavant, seront supérieures à l'inflation sur 2019. Et puis on a quand même donné de sérieux coups de pouce. Je rappelle que les entreprises ont distribué 2,2 milliards de primes dites Macron. En réalité, c'est une prime patron, ça sort bien des poches.
C'est les primes que le président de la République avait incité les entreprises à verser.
Sur base de bénévolat.
Oui, tout à fait, il n'y avait rien de contraint.
Donc je ne pense pas qu'on ait à rougir de ce que l'on fait en moyenne en la matière.
Je lis dans le Figaro ce matin que les patrons vont exhorter le président de la République à maintenir le cap, à continuer de réformer. Jusqu'ici, est-ce que vous avez à vous plaindre d'Emmanuel Macron ?
Non, on n'a pas à se plaindre, mais à vrai dire, derrière les entreprises, c'est les salariés, c'est aussi les actionnaires, mais c'est la collectivité, donc c'est pas les entreprises ou les chefs d'entreprise à eux seuls. Bon, on sent un petit flottement en ce moment, mais qu'on comprend d'une certaine manière. Il y a eu beaucoup de distribution de pouvoir d'achat sous la pression des événements, il y a une impasse budgétaire.
Il y en a eu trop de distribution de pouvoir d'achat suite aux événements, vous parlez évidemment des gilets jaunes.
Moi, je me place pas sur un champ politique, peut-être fallait-il le faire de ce point de vue, mais ce qui n'est pas contestable, c'est que l'État n'a plus les moyens de sa politique et que les 17 milliards d'euros de pouvoir d'achat qui ont été distribués l'ont été à crédit. Il ne faudrait pas que ça soit récupéré sur le dos des entreprises au moment où la conjoncture ralentit.
Vous voulez moins de dépenses publiques donc ?
Ah bon, on veut moins de dépenses publiques, c'est une évidence. On est dans une conjoncture qui demeure à peu près porteuse, en tout cas en France. Ça peut ne pas durer éternellement, ça ne durera pas éternellement. On est à près de 100% du produit intérieur brut d'endettement, sans compter la dette hors bilan, si j'ose dire, de l'État.
Il y a des taux d'intérêt qui sont nuls aujourd'hui ?
Qui sont nuls jusqu'au jour où ils ne le seront plus.
Oui. Donc c'est pas une raison pour emprunter plus.
Écoutez, les frais financiers que l'État paye sur sa dette, c'est déjà 40 milliards d'euros par an. On peut faire beaucoup de choses en matière sociale, en matière d'investissement, en matière de modernisation avec 40 milliards d'euros. Non, il faut absolument qu'on soit attentif à ça. La perspective d'un krach financier mondial n'est absolument pas exclue. Monsieur Trichet s'est exprimé de manière très claire.
Oui, il parle de récession possible, récession qui se confirme en Allemagne, qui va peut-être arriver. Récession mondiale envisagée, ça vous inquiète évidemment?
Bah, en tout cas, c'est un scénario qu'il faut avoir en tête. Hein. Rappelons-nous que dans les années 70, la dette de l'État, c'était 20% du PIB. Proportionnellement, elle a été multipliée par 5. Si demain, il y a un accident, comment réagira-t-on? Comment la BCE réagira-t-elle? On a quand même vécu ça il n'y a pas si longtemps, en 2009. Et en 2009, on avait un peu plus de réserves qu'aujourd'hui.
La grande question sociale de la rentrée en France, Patrick Martin, c'est la réforme des retraites. C'est assez technique, on va essayer de ne pas noyer nos auditeurs, ni nous d'ailleurs. On a entendu le chef de l'État lundi soir dire qu'il était favorable à un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge. Est-ce que vous le suivez ?
Ben d'abord, ça nous prend à contre-pied, d'abord sur le plan de la méthode, hein, parce que le président de la République annonce une grande concertation. Dans notre esprit, elle avait déjà eu lieu, hein, puisque Monsieur Delevoye, qui a bien fait le job, a consulté les partenaires sociaux et d'autres pendant plus de 18 mois.
C'est le haut-commissaire à la réforme des retraites.
Hein. Absolument. Donc on repart pour un tour, d'une certaine manière, pourquoi avoir perdu 18 mois? On craint que ce soit une manœuvre dilatoire, avec en toile de fond des préoccupations électorales à l'approche des municipales. Mais sur le fond, alors même que, je dirais pas qu'il y avait consensus, mais les uns et les autres avaient compris qu'on se calerait sur l'âge pivot ou l'âge d'équilibre de 64 ans. Monsieur Macron rebat complètement les cartes. Bon, à vrai dire, il l'avait déjà fait dans le cadre de la négociation sur l'assurance chômage, en intervenant, si je me souviens bien, à Valence, pour dire que quoi qu'il advienne, il y aura un bonus-malus. Ça tue un petit peu la négociation. Et,
ça veut dire que c'est une fausse négociation, c'était une fausse discussion. Au final, c'est lui qui décide.
Écoutez, pour revenir à l'essentiel, de toute façon, il y a un problème sur les retraites, un problème de financement, un problème
Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous tenez absolument à un âge pivot, puisque c'était la formule consacrée, histoire de ne pas faire peur, je pense, hein, âge de départ à la retraite, est-ce qu'il faut en fixer un?
Alors nous, on est convaincus, et l'expérience le démontre, que de reporter l'âge légal, en tout cas, même si c'est sous une forme moins formelle, d'avoir un âge pivot, c'est le moyen le plus radical de régler les problèmes de financement des régimes de retraite qui coûte très cher à la France, donc aux concitoyens. Bon, si on part sur une durée de cotisation, je rappelle quand même qu'il y a eu en 2014 une réforme qui a fixé pour nos concitoyens nés après 73 une durée de cotisation de 43 ans. Si on comprend bien, Monsieur Macron, il faudrait aller au-delà de 43 ans. Les jeunes rentrent de plus en plus tard sur le marché du travail. Prenons le cas d'un diplômé rentrant à 25 ans. En l'état, il devrait partir à 68 ans. Si on fonde la réforme des retraites sur l'allongement de la durée de cotisation, ça peut signifier...
On va partir vieux, très vieux.
72 ans, alors vous me direz, ça peut exister dans certains pays. Oui. Bon, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit l'aspiration.
Ça n'est pas ce que veut le MEDEF.
Ça n'est pas ce que veut le MEDEF. Il faut combiner les deux, en réalité. Il faut quand même...
Et puis ça pénalise les cadres, hein, qui pour le coup, souvent, ont fait des études supérieures, des études plus longues. Et là, les patrons se sentent très directement... presque intimement concerné.
Oui, alors bon, il faut pas s'emballer non plus, hein, mais à nouveau, il y a une interférence, je dirais, dans la réflexion, l'avancement de ce dossier avec cette intervention qui était totalement inattendue du président de la République. En plus,
ça vous met pas en joie. Hein. C'est pas la bonne nouvelle de la rentrée.
Ça nous perturbe parce que ayons tous en tête que le dossier des retraites, c'est un dossier absolument central. C'est 14% du produit intérieur brut, là où nos pays concurrents sont plutôt à 10%. Il y a des déficits qui manière certaine sont assurées à moyenne échéance, en tout cas. Donc on ne peut pas enterrer ce sujet-là. Le président de la République a pris des engagements sur une réforme. Nous souhaitons qu'il demeure réformiste, mais faisons les choses.
Vous lui demandez du courage ?
Bah, écoutez, moi j'ai pas à m'exprimer ainsi sur le président de la République, hein, mais le pays en a besoin. Bah,
vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être des préoccupations électorales qui expliquaient un certain recul ou un changement de pied.
Oui.
Peut-être.
Peut-être.
Peut-être, c'est comme ça que vous le lisez. Un tout petit mot du G7 quand même, Patrick Martin. Début d'espoir d'apaisement sur le dossier iranien. Est-ce qu'il faut dire aux entreprises françaises, la vôtre commencez à y investir, hein, qui ont déserté l'Iran, de se préparer à y revenir?
Non, je pense que c'est tout à fait prématuré. Ce qu'on observe, et ça ne se sait pas trop, hein, c'est que les Américains ne s'appliquent pas toujours à eux-mêmes les préconisations qu'ils ont pour les autres.
Ça veut dire que les entreprises américaines vont bien en Iran?
Certaines entreprises américaines vont bien en Iran.
Et donc c'est pas l'heure pour les Français d'y retourner?
Non, je ne pense pas. Et puis de toute façon, ce sont les banques qui décideront. Si les banques sont toujours sous la menace scandaleuse de mesures extraterritoriales de la part des Américains, elles financeront pas.
Merci à vous, Patrick Martin, d'être venu ce matin avant cette nouvelle université du MEDEF qui débute cet après-midi.